Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, Urbania. Au programme, est-ce que ChatGPT est un bon conseiller financier? Et saison des impôts. Trois histoires d'horreur de travailleurs autonomes. Bonne écoute.
Est-ce que ChatGPT est un bon conseiller financier? Un texte de Pierre-Luc Ouellet paru le 21 mars 2023 dans Urbania. On le sait, l'intelligence artificielle est en bonne voie de remplacer plusieurs de nos emplois, à commencer par ceux des journalistes et chroniqueurs. Mais comme chez 4.95, notre affaire, c'est les finances, on a décidé de demander à ChatGPT de nous offrir des conseils, voir si la job de notre planificateur financier est en danger. Post-scriptum, évidemment, on vous invite à ne pas prendre ces conseils pour du cash et à parler à un conseiller financier qui a des données qui dépassent 2021, contrairement à l'intelligence artificielle. Est-ce que je devrais acheter une maison maintenant ou attendre? La réponse de ChatGPT. La décision d'acheter une maison dépend de nombreux facteurs tels que votre situation financière personnelle, le marché immobilier local, les taux d'intérêt et vos objectifs à long terme. Il est donc difficile de donner une réponse précise sans plus d'informations. Cependant, voici quelques éléments à prendre en compte pour vous aider à décider si vous devriez acheter maintenant ou attendre. Votre situation financière. Il est important de savoir si vous avez suffisamment d'argent pour effectuer un achat immobilier et si vous êtes en mesure de prendre en charge les coûts associés tels que les frais de notaire, les taxes foncières, l'assurance, les réparations, etc. Si vous n'êtes pas en mesure de couvrir ces coûts ou si vous n'avez pas un bon dossier de crédit, il peut être judicieux d'attendre. Le marché immobilier. Il est important de comprendre la situation actuelle du marché immobilier dans votre région. Si les prix sont à la hausse et que la concurrence pour les propriétés est forte, vous pourriez avoir du mal à trouver une propriété abordable qui répond à vos besoins. D'un autre côté, si le marché est en baisse ou stable, vous pourriez être en mesure de trouver une meilleure affaire. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt hypothécaires fluctuent constamment et peuvent affecter le coût total de votre prêt immobilier. Si les taux sont actuellement bas, cela peut être un bon moment pour acheter. Cependant, si les taux sont à la hausse, vous pouvez envisager d'attendre. Vos objectifs à long terme. Si vous envisagez de rester dans la propriété pendant plusieurs années et que vous êtes prêt à assumer les coûts associés à l'achat, l'achat maintenant peut être une bonne décision. Si vous envisagez de déménager dans un proche avenir ou si vous avez des incertitudes quant à votre situation financière, il peut être judicieux d'attendre. En résumé, avant de prendre une décision, il est important de prendre en compte ces facteurs et de bien réfléchir à votre situation personnelle. Si vous avez des doutes, il peut être utile de consulter un professionnel de l'immobilier ou un conseiller financier pour vous aider à prendre une décision éclairée. Notre analyse. C'est un conseil prudent, quoique imprécis. C'est normal. Comme on l'a précisé en début d'article, les données de ChatGPT arrêtent au milieu de 2021. ChatGPT n'est donc pas au courant de la poussée inflationniste et de la hausse importante des taux d'intérêt. Aussi, probablement que OpenAI, l'entreprise derrière l'intelligence artificielle, préfère rester prudente pour éviter les poursuites. Ceci étant dit, ne pas acheter une maison au-dessus de ses moyens et éviter d'acheter avec des taux à la hausse sont généralement deux bonnes idées. Eh oui, parler à un expert avant de procéder à un achat si important. Vous écoutez, est-ce que ChatGPT est un bon conseiller financier? Un texte de Pierre-Luc Ouellet paru le 21 mars 2023 dans Urbania. Est-ce que je devrais rembourser ma carte de crédit en premier ou placer l'argent dans mes REER? La réponse de ChatGPT. Le choix entre rembourser votre carte de crédit ou placer de l'argent dans vos REER dépendra de votre situation financière personnelle et de vos priorités à long terme. Cependant, voici quelques éléments à prendre en compte. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont généralement très élevés, souvent de l'ordre de 15 à 20% ou plus. En comparaison, les taux de rendement sur les REER peuvent varier selon les types de placements, mais sont généralement moins élevés. Par conséquent, si vous avez des dettes de cartes de crédit avec des taux d'intérêt élevés, il est souvent judicieux de les rembourser en priorité avant de commencer à investir dans vos REER. Votre niveau d'endettement. Si vous avez d'autres dettes, comme un prêt étudiant ou un prêt automobile, il peut être judicieux de rembourser ces dettes avant de commencer à investir dans vos REER. Cela vous aidera à réduire votre niveau d'endettement et à améliorer votre profil de crédit. Votre capacité d'épargne. Si vous avez suffisamment de revenus pour rembourser votre carte de crédit et investir dans vos REER en même temps, cela peut être une option. Cependant, si vous devez choisir entre les deux, il peut être plus judicieux de rembourser votre carte de crédit en priorité pour éviter de payer des intérêts élevés. Vos objectifs à long terme. Si vous avez des objectifs à long terme, tels que l'achat d'une maison ou la retraite, il peut être judicieux d'investir dans vos REER pour atteindre ces objectifs. Cependant, si vous avez des dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevé, cela peut retarder la réalisation de vos objectifs à long terme. En résumé, il est généralement préférable de rembourser vos dettes de cartes de crédit en priorité avant de commencer à investir dans vos REER. Cela vous aidera à réduire vos dettes et à éviter de payer des intérêts élevés. Cependant, si vous pouvez vous permettre de rembourser votre carte de crédit et d'investir dans vos REER en même temps, cela peut être une option. Si vous avez des incertitudes quant à votre situation financière, il peut être utile de consulter un conseiller financier pour vous aider à prendre une décision éclairée. Notre analyse. C'est beaucoup de mots pour dire « rembourse ta carte de crédit ». En général, le montant que vous allez payer en intérêt sur une dette de carte de crédit est pas mal plus important que le rendement que vous feriez avec un REER ou l'argent que vous économiseriez sur vos impôts. Par contre, on ne vous conseillerait généralement pas de rembourser votre prêt étudiant avant de placer de l'argent dans votre REER. Si votre prêt était avec l'aide financière aux études, vous n'avez pas eu à payer d'intérêt du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Et même en temps général, le taux d'intérêt sur ces prêts a tendance à être très bas. C'est très probablement plus rentable de placer de l'argent dans votre retraite à la place. Quel est le meilleur moyen de réduire mes dépenses? La réponse de ChatGPT. Il y a plusieurs moyens efficaces de réduire vos dépenses. Voici quelques suggestions pour vous aider à économiser de l'argent. Faites un budget. Le premier pas pour réduire vos dépenses est de savoir exactement ce que vous dépensez chaque mois. Faites une liste de toutes vos dépenses mensuelles et suivez vos dépenses pendant un mois ou deux. Cela vous aidera à identifier où va votre argent et à trouver des domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. Économiser sur les factures d'énergie. Les factures d'énergie peuvent représenter une part importante de vos dépenses mensuelles. Réduisez votre consommation d'énergie en éteignant les lumières et les appareils électroniques lorsque vous ne les utilisez pas, en réglant votre thermostat de manière efficace et en utilisant des ampoules à faible consommation d'énergie. Économisez sur les achats de nourriture. La nourriture est une autre dépense importante. Économisez de l'argent en faisant vos courses avec une liste et en comparant les prix dans les différents magasins. cuisiner à la maison plutôt que de manger au restaurant ou de commander des plats à emporter. Évitez les aliments transformés et préférez les produits frais. Économisez sur les transports. Le transport peut également représenter une part importante de vos dépenses. Si possible, marchez ou utilisez un vélo pour vous déplacer plutôt que de prendre votre voiture. Si vous devez prendre votre voiture, essayez de faire du covoiturage ou utilisez les transports en commun. Réduisez les abonnements et les services. Les abonnements et les services tels que les abonnements de magazines, les services de streaming ou les forfaits de téléphone mobile peuvent représenter une dépense importante. Évaluez les abonnements et les services que vous utilisez réellement et annulez ceux dont vous n'avez pas besoin. Économisez sur les sorties et les loisirs. Les sorties et les loisirs peuvent également représenter une dépense importante. Économisez de l'argent en cherchant des activités gratuites ou peu coûteuses. En organisant des pique-niques ou des soirées à la maison plutôt que d'aller au restaurant ou en boîte de nuit. En résumé, il existe de nombreuses façons de réduire vos dépenses. Faites un budget, identifiez les domaines où vous pouvez économiser et adoptez des habitudes économes. Même de petits changements peuvent faire une grande différence à long terme. Notre analyse. C'est honnêtement pas les pires conseils. Ils sont juste très, très généraux. Au Québec, on paie notre électricité vraiment pas cher. Une ampoule à Dell coûte à peu près 2 $ à alimenter par année, selon Hydro-Québec. Chaque dollar compte et c'est bien d'économiser de l'énergie. C'est le ministre Fitzgibbon qui va être content. Mais disons que c'est pas ça qui va vous permettre d'acheter un condo à l'île des Sœurs. Mais, en effet, faire un budget, c'est toujours une bonne idée. Vous écoutez, est-ce que ChatGPT est un bon conseiller financier? Un texte de Pierre-Luc Ouellette paru le 21 mars 2023 dans Urbania. Dans quelles actions devrais-je investir? La réponse de ChatGPT. Il est important de noter que je suis un modèle de langage et que je ne suis pas un conseiller financier. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de vous fournir des recommandations d'investissement spécifiques. Cependant, voici quelques conseils généraux qui pourraient vous aider à prendre des décisions d'investissement éclairées. Faites vos recherches. Il est important de faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Étudiez les entreprises et les secteurs qui vous intéressent, ainsi que les tendances du marché. Établissez un plan d'investissement. Avant d'investir, établissez un plan qui reflète vos objectifs d'investissement, votre tolérance au risque et vos délais. Assurez-vous que votre plan est cohérent avec votre profil d'investisseur. Diversifiez votre portefeuille. La diversification est essentielle pour minimiser le risque de votre portefeuille. Investir dans différentes classes d'actifs, tels que les actions, les obligations et les fonds négociés en bourse, FNB, peut vous aider à répartir le risque. Évitez les décisions impulsives. Évitez de prendre des décisions d'investissement impulsives basées sur l'émotion ou les conseils d'amis et de membres de la famille. Prenez le temps de considérer les faits et les données avant de prendre une décision. Utilisez des outils d'investissement. Utilisez des outils d'investissement en ligne pour évaluer les actions et les fonds que vous envisagez d'acheter. Les sites web de courtage et les applications d'investissement peuvent également offrir des informations utiles pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Il est important de noter que tout investissement comporte un certain niveau de risque. Par conséquent, il est essentiel de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement. Notre analyse. Ouais, c'est là qu'on voit les limites de l'intelligence artificielle. La première affaire que ChatGPT nous dit, c'est de ne pas trop se fier. Mais c'est normal, l'investissement en bourse est une activité super complexe qu'on compare souvent à la loterie avec raison. Si c'était si simple de savoir dans quelle entreprise investir, tout le monde serait milliardaire. Entre vous puis moi, si vous avez besoin de demander à ChatGPT dans quoi investir, ça serait peut-être mieux d'aller voir un conseiller financier ou d'opter pour un fonds négocié en bourse avec une bonne réputation. Est-ce que le capitalisme va détruire la planète? La réponse de ChatGPT. Le capitalisme en tant que système économique ne vise pas à détruire la planète. Cependant, certaines pratiques commerciales et économiques capitalistes peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Par exemple, la poursuite du profit à court terme peut conduire à l'exploitation excessive des ressources naturelles et à la pollution, ce qui peut entraîner des dommages environnementaux à long terme. Cependant, il convient de noter que les impacts environnementaux ne sont pas spécifiques au capitalisme et que des problèmes similaires peuvent se produire dans d'autres systèmes économiques. Les économies socialistes ont également connu des problèmes environnementaux majeurs, comme en témoigne l'histoire de l'Union soviétique. Il est important de souligner que la viabilité de l'environnement et celle du système économique ne sont pas mutuellement exclusives. Des initiatives de développement durable peuvent être mises en place dans le cadre du capitalisme pour réduire l'impact environnemental des pratiques économiques et permettre un développement économique durable. Cela peut inclure des investissements dans des technologies propres, une réglementation environnementale stricte et des politiques incitatives pour encourager les entreprises à adopter des pratiques durables. Notre analyse au futur. C'était « Est-ce que ChatGPT est un bon conseiller financier ?» Un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 21 mars 2023 dans Urbania. Saison des impôts. Trois histoires d'horreur de travailleurs autonomes. Un texte de Bilieff, paru le 20 mars 2023 dans Urbania. Il y a quelque temps, je vous expliquais pourquoi, en 2023, on doit encore remplir nos déclarations de revenus chaque année plutôt que d'avoir un processus automatisé. Entre autres, je vous racontais comment la situation financière de beaucoup de gens au Canada pouvait être particulière et comment, si tout le monde était salarié ordinaire avec une seule source de revenus, tout serait infiniment plus simple. Mais entre travailleurs autonomes, saisonniers, pigistes et autres catégories de travailleurs, ça peut être l'enfer de s'y retrouver dans nos finances, surtout quand l'argent rentre et sort rapidement. Parfois, ce qu'on pense être le bon move finit par nous coûter cher. Pour que ce genre de situation ne vous arrive pas, on a demandé à des travailleurs autonomes de nous parler de leurs pires histoires d'impôts. Et croyez-moi, M. Knight Shyamalan n'aurait pas pu faire mieux. Zach, 30 ans. En 2012, j'avais 19 ans et j'ai commencé à travailler pour une petite entreprise en tant que contracteur indépendant. Malgré mon statut, je travaillais 40 heures par semaine. Ils ne m'ont jamais prévenu que j'aurais à payer des arriérés au moment des impôts l'année suivante. Quand j'ai rempli ma déclaration en 2013, je devais au gouvernement 12 000 $. L'affaire, quand on doit autant d'argent au gouvernement, c'est qu'il faut mettre en place un plan de remboursement parce qu'évidemment, à 19 ans, t'as pas 12 000 $ de lousse. Alors, tu fais un plan de paiement, mais c'est quasi impossible de payer chaque versement tout en mettant de côté de l'argent pour éviter le même problème l'année suivante parce que tu ne fais pas assez d'argent. Donc, la dette s'accumule, tu restes pris dans un cercle vicieux et l'année suivante, tu en dois encore plus. Éventuellement, j'ai changé d'emploi et je me suis mis à recevoir des retours d'impôts, ce qui fait qu'ils ont cessé de me demander de faire mes versements. J'ai donc supposé que, puisqu'ils m'envoyaient de l'argent, je n'avais plus à les payer. Bon, c'était bête de ma part, je le réalise maintenant. Mais ils n'ont pas non plus fait d'effort pour me signifier que j'avais encore une dette auprès d'eux, et ce, pendant plusieurs années. Plus tôt cette année, donc 11 ans plus tard, ils ont saisi mon compte en banque en disant que je leur devais près de 12 000 $ depuis 2016. J'ai dû conclure une autre entente de paiement pour mettre tout ça au clair et avoir de nouveau accès à mon argent. Je vais donc devoir faire de petits versements tous les mois jusqu'à la fin de ma vie, probablement. La leçon que j'en tire est qu'il ne faut jamais supposer que l'on ne doit pas d'argent au gouvernement. Et ça vaut aussi la peine de les appeler de temps à autre juste pour dire « Hey, je vous dois pas du cash, par hasard ?» Sans quoi, ils finiront par simplement venir le prendre dans votre compte. Alexander, 31 ans. Quand j'ai terminé le cégep, j'ai enfin pu réaliser l'un de mes rêves, mais ça m'a coûté cher. J'ai toujours voulu être musicien et mon projet a commencé à gagner un peu de succès dans ma scène, qui est très nichée, ce qui m'a permis de me joindre à d'autres musiciens pour une tournée à travers l'Amérique du Nord. J'ai donc lâché ma job étudiante pour partir pendant presque 4 mois. On ne te donne pas de cours quand tu commences dans le milieu sur comment s'occuper de ton argent. Si tu n'as pas un bon gérant qui s'occupe de ce genre de choses, tu peux faire des erreurs. J'en ai fait 2. Premièrement, ce n'est que trop tard qu'un ami m'a dit qu'il était possible pour moi de déduire certaines dépenses que j'avais faites avec ma carte de crédit lors de la tournée. L'essence, la nourriture, l'équipement, certaines des nuits de home hotel. Tout ça pouvait compter comme des dépenses, d'affaires. Mais je ne m'étais jamais vu comme étant une business, alors ça ne m'était pas du tout passé par la tête. Quand j'ai déclaré l'argent que j'avais fait à l'extérieur du pays, j'ai dû payer des impôts là-dessus alors que je ne m'y attendais pas. Donc, non seulement je n'ai pas réellement fait d'argent avec ma tournée, mais ne pas avoir saisi l'opportunité des déductions fiscales représentait à mes yeux une autre perte financière. Je suis donc retourné à mon emploi étudiant et je ne suis pas retourné en tournée jusqu'à l'année d'après, quand j'avais enfin une équipe, mais surtout un comptable qui a de l'expérience avec les musiciens. Chuck, 36 ans. Il y a quelques années, j'ai acheté une maison. Puisque c'était un premier achat, j'ai pu le « râper ». J'avais des REER dans 2 banques. L'une était ma banque personnelle et l'autre, une contribution automatique à mes REER de mes contrats syndiqués, dans une autre banque. J'ai demandé les formulaires qu'il faut remplir pour sortir l'argent des REER sans être imposé dessus et je les ai reçus le 27 décembre. Après avoir tout rempli, j'ai perçu les fonds le lendemain. J'ai aussi reçu un autre formulaire la première semaine de janvier et les fonds dans la même journée. Le problème, c'est que j'ai touché une partie du RAP en 2020 et une autre en 2021. Donc, en 2021, quand j'ai fait mes impôts, j'avais prévu d'avance ce que je devais mettre de côté grâce au calcul avec mon comptable. Je me suis ramassé avec un peu plus d'argent que prévu, que j'ai donc décidé de mettre dans mon CELI. Puis, en recevant mon avis de cotisation officielle, j'ai réalisé que je leur devais plus que prévu. Je me suis alors rendu compte qu'ils avaient pris la deuxième partie du RAP et l'avaient traité comme étant un revenu simple, que j'avais sorti pour de la liquidité et non pour un achat de maison, un peu comme un retraité. Donc, l'argent que j'avais pour payer cette différence, erroné, mais qu'il fallait que je paye pour pouvoir contester, est maintenant dans mes CELI, ce qui commence à créer un problème de liquidité. L'autre problème, c'est qu'ils ont ajouté les 20 000 $ de mon RAP par-dessus mes revenus de 2020. Donc, mes acomptes provisionnels étaient artificiellement gonflés. J'étais vraiment sur les fesses en termes d'argent libre pour ma vie de tous les jours. Ça a créé un méga problème et j'ai dû essayer de prouver que c'était en fait le même RAP jusqu'à ce qu'il me rembourse finalement le trop perçu. Quant à l'excédent que j'avais payé sur mes acomptes provisionnels, il devrait m'être remboursé cette année avec mon retour d'impôt. C'était Saison des impôts. Trois histoires d'horreur de travailleurs autonomes. Un texte de Billy F. paru le 20 mars 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Nicolas Zartman à la recherche, à la présentation et au montage.